Alors, bonjour Sophie.
Bonjour.
On a discuté, quand on a enregistré le podcast, le dernier podcast des Voix d'Altaride, de l'opportunité et l'intérêt de jouer le mal en jeu de rôle. Et on a évoqué ton métier de conteuse à ce propos et des conseils et des intérêts que tu peux avoir dans ce domaine-là. Alors, comme on en a un petit peu discuté, je pense que la partie jeu de rôle est peut-être un petit peu moins présente dans ce que tu vas nous dire, mais comme le conte est très en rapport avec le jeu de rôle et que Benoît nous a dit que tu pensais pouvoir apporter beaucoup de choses de ce point de vue-là, ou en tout cas lui il y croit, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet et comment tu penses l'aborder?
Alors, au niveau du mal, effectivement, moi, je suis pas une rôliste de très longue date, donc je me situerais plutôt du côté des histoires. Moi, ce qui m'intéresserait d'apporter, entre guillemets, aux rôlistes, c'est toute la partie culturelle, toute la partie tradition orale, puisqu'il y a quand même un énorme stock, entre guillemets, d'histoires qui aborde des sujets assez différents. Et moi, les sujets que j'aime bien aborder avec les contes, c'est les histoires un peu dark, un peu sombres, qui parlent de fantômes, qui parlent de morts, qui parlent aussi du rapport des humains à ces sujets-là. Des histoires où l'humain n'est pas au centre du monde, il n'est pas le plus fort, il y a des forces qui le dépassent et il doit faire avec ça. Et s'il joue pas le jeu, ça lui retombe dessus sans pitié, quoi. Il y a vraiment un côté très radical dans ces histoires-là.
Ok.
Moi, c'est un peu les histoires que j'aime bien raconter, notamment aux adultes, évidemment, pas aux enfants, mais...
Oui, à ce propos d'ailleurs, tu avais évoqué avec moi la séance que tu avais faite à Scorfell l'an dernier, où tu disais que des rôlistes chevronnés qui avaient l'habitude des jeux d'horreur étaient ressortis de la salle où tu avais fait ça, les genoux tremblants.
Oui, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très fiers. C'est sûr que quand on écoute une histoire, on n'est pas aussi actif, on n'a pas... Voilà, on se laisse prendre par l'histoire. Et du coup, l'imagination fonctionne très très bien. Et les mots arrivent à évoquer pas mal de choses. Et ces histoires-là sont assez costauds. Donc oui, c'est vrai qu'on a beau aborder des grands anciens et autres bestioles pas très sympathiques. Juste quand la mort traverse le tableau d'une histoire, ça peut, oui, pas forcément très à l'aise.
Oui, dans tes histoires et dans les contes que tu choisis de mettre en scène dans tes contes d'arc, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, le mal, il intervient comment? Il s'incarne comment?
Alors, le mal, disons que c'est la plupart du temps, c'est des histoires qui remettent l'humain dans une autre perspective. Le mal, il est plutôt du côté des forces un peu obscures, de la mort, des revenants. Les antagonistes, au sens où on l'entend en jeu de rôle, sont plutôt présents comme des forces de la nature qui sont
Oui.
là, que l'humain doit considérer comme tel et ne doit pas jouer avec le feu. Enfin, en tout cas, il doit comprendre comment ça marche. Et pas arriver comme un gros bourrin à dire même pas peur, j'y vais, quoi. Ça peut marcher, mais il faut vraiment bien avoir préparé son coup. Parce que ça pardonne pas en général. Donc
D'accord.
ça va être plus d'autres aspects du monde que l'humain rencontre et doit faire avec.
D'accord. Et le mal ne se trouve pas du côté de l'humain, justement. Tu abordes pas des contes. Il y a quand même une tradition de contes où un humain mauvais se retrouve puni par rapport justement à toute ce monde ambiant qui remet les choses un petit peu à l'heure. Est-ce que ça, c'est des choses que tu exploites, hein?
Alors oui, parce que c'est vrai que notamment dans les contes merveilleux, il y a même si on aborde des aspects assez noirs, il y a quand même une morale. À la fin, c'est toujours le méchant qui est puni, le gentil qui est récompensé, même si le gentil en bave un peu. Et c'est vrai que, notamment les personnages de marâtre qui en prennent un peu pour leur grade dans les histoires. Oui, j'ai des versions notamment une version de Cendrillon où la marâtre, elle est quand même assez gratinée. Pour le coup, il y en a deux
Oui.
qui se succèdent. Et oui, il y avait vraiment un côté manipulateur, c'est vraiment pas des personnages sympathiques. Mais ils sont là, ils font partie du jeu et on doit faire avec. Et même le héros en lui-même n'est pas forcément tout blanc, tout pur non plus.
D'accord. Une des questions qu'on s'est posées beaucoup pendant le podcast, c'était de savoir si le mal, il se situait dans l'intention du personnage ou dans l'action du personnage. Est-ce que dans ton cas, c'est un thème qui est abordé? Est-ce que tu fais vivre un petit peu le chemin intérieur des personnages quand tu racontes une histoire?
Non, parce que en tant que conteuse, la position que j'ai par rapport à l'histoire, c'est je suis témoin. Je pars du
D'accord.
principe, j'étais là au moment où l'action s'est déroulée et j'ai vu ce qui s'est passé, mais pas plus. Je suis pas dans la tête des personnages, donc je vais plutôt voir l'action. Je vais plutôt voir ce que les personnages font. Après, les intentions qu'ils ont, je laisse le spectateur libre d'interpréter. Justement, ça que après, bon, j'ai ma petite idée sur la question et dans la façon dont je vais présenter le personnage, on peut avoir une idée de la version que je donne moi, mais mon rôle, c'est vraiment de présenter l'action telle qu'elle est, de faire en sorte que le spectateur soit témoin de l'histoire comme j'ai pu l'être moi dans mon imaginaire, et de tirer ses propres conclusions. Moi, je ne vais pas dire, voilà, il était méchant, donc je vais dire, voilà, il a fait un truc, il a fait ça et ça, et puis le spectateur va dire, oui, effectivement, c'est quand même une peau de vache. Mais je ne vais pas donner une intention que je ne connais pas, puisque j'étais que témoin.
D'accord, et tu ne donnes pas d'intention, et finalement, tu ne fais que raconter, tu ne portes pas de jugement direct non plus.
Non, parce que du coup, voilà, c'est des personnages qui ont des motivations différentes, donc effectivement, nous, on les interprète comme des motivations mauvaises. Après tout, pour ce personnage-là, c'est de très bonnes motivations, finalement.
Oui. Et comment est-ce que, de ce point de vue-là, tu fais pour que le spectateur comprenne, s'il y a besoin, que le mal est présent dans l'histoire?
En général, il n'y a pas besoin de souligner trop,
Oui.
parce que les actions soient assez radicales. C'est vrai que bah, il y a souvent des histoires de meurtre ou de tentatives de meurtre, voilà, d'affamer quelqu'un, de le battre. Enfin, c'est assez. Le conte merveilleux, il est quand même assez clair dans les intentions des personnages, enfin, dans les actions. On envoie quelqu'un se faire tuer, ou on le tue, ou on fait tout en sorte qu'il soit malheureux. Enfin voilà, il y a des choses assez claires, où on va voir le diable, où on va voir des monstres. Voilà, les personnages sont assez typés. Donc normalement, il n'y a pas besoin de vraiment montrer que le mal est là, il apparaît tel quel.
D'accord. Et comment est-ce que tu penses que ces histoires peuvent apporter à des joueurs de jeux de rôle ou à des maîtres du jeu de jeu de rôle pour renforcer les histoires qu'ils racontent pendant les parties ou en tout cas qu'ils essayent de vivre pendant les parties?
Ben, l'intérêt que j'y vois, c'est que c'est des histoires très solides qui existent depuis, hein, qui ont traversé les siècles. Donc c'est des structures très, très anciennes et qui peuvent résonner vraiment chez les joueurs et chez le meneur.
Oui.
Donc, c'est vraiment un matériau de base qui va résonner, qui va plonger les gens assez facilement dans des états très assez forts. Plutôt que voilà, s'il y a des personnages, des grands archétypes, je sais pas, comme la mort, comme les fantômes, les revenants,
Oui.
c'est des choses qui peuvent parler assez fortement à peu près à tout le monde, qui peuvent s'intégrer dans pas mal d'univers aussi.
Bah, ton histoire de Cendrillon que tu évoquais par exemple, est-ce qu'elle tiendrait toujours dans le cas où on a des joueurs qui arrivent à l'intérieur et qui peuvent intervenir? Parce que en jeu de rôle, finalement, un des grands intérêts, c'est de pouvoir changer l'histoire telle qu'elle commence à être racontée et la faire dérailler en quelque sorte. Est-ce que dans le cadre d'un conte réutilisé en jeu de rôle, tu penses que ça peut être jouable ou est-ce que le conte va rester plus en arrière-plan, en inspiration, en spectacle?
Je pense que c'est plus intéressant de le garder en arrière-plan ou en source d'inspiration, parce que le conte, il a sa logique interne,
Oui.
parcours d'un personnage d'un état à un autre, puisque souvent c'est une histoire d'évolution d'un état, pour arriver à l'état adulte ou pour arriver à dépasser une. Donc je pense qu'il perdrait de son intérêt si on changeait la structure. Par contre, jouer sur un imaginaire collectif, comme c'est déjà beaucoup le cas, il y a beaucoup
Bien sûr.
de qui piochent dans ce terreau-là, de le garder en arrière-plan ou avec des personnages qui peuvent justement résonner pour les spectateurs, ça peut être, je pense que ça peut être là l'intérêt d'intégrer les histoires. Pas de changer le cours de l'histoire. Ils font pas mal de films, enfin de réalisateurs, ils essaient de prendre Hansel et Gretel et finalement dire, voilà, ils ont grandi, ils tuent des sorcières. Oui, bon,
Oui.
certes. Mais bon, le cœur de l'histoire et tout l'intérêt de l'histoire, il n'est pas là. Il n'est pas dans le fait qu'ils gagnent à la fin, il est dans le fait qu'il y a un processus, qu'ils arrivent à affronter. Enfin voilà, il y a plein d'étapes qui sont nécessaires pour que l'histoire elle prenne son sens aussi.
D'accord. Je sais que tu vas bientôt pouvoir en présenter des contes d'arc.
Oui,
On l'a
vraiment.
évoqué un petit peu pendant le podcast. C'est pour Geekopolis, c'est ça?
Voilà, c'est à Geekopolis, donc ce sera le dimanche après-midi. Oh, c'est le 23, non, le 24. Je crois que
Oui.
c'est ça.
24 mai.
24 mai à 15 h. Donc c'est dans l'espace Avalon.
Ok.
Alors après, la salle exacte, je ne sais pas, mais bon, ça doit être marqué dans le programme. Enfin voilà, c'est le plan. C'est assez. Et comme je serai sur le stand des chroniques d'Altaride, on mettra
Oui.
aussi un petit papier en disant, voilà, les comptes, c'est à telle heure, telle heure, tel endroit, puis on fera une petite signalétique.
Ok. Et alors, qu'est-ce que tu vas présenter à cette occasion-là?
Alors, à cette occasion-là, je vais présenter 3 ou 4, ça dépendra du temps dont je dispose aussi. Trois petites histoires, voilà, c'est du conte traditionnel, c'est du conte un peu du monde, qui présente hein, des ambiances un peu sombres, un peu inquiétantes. On part souvent d'une situation assez quotidienne et petit à petit on dérive vers du surnaturel et voilà, le personnage doit se débrouiller avec ça et doit réussir à passer l'épreuve avec plus ou moins de succès.
Et c'est clairement des contes pour adultes.
Ah oui, clairement. Je précise à chaque fois 14 ans et plus parce que non, pour éviter d'avoir des petits, parce que non, c'est vraiment pas pour les petits. Non.
Oui. Tout. Et ce sont des contes que tu trouves dans des recueils anciens ou c'est des contes qui sont plus accessibles à tous
Des recueils anciens, non. La plupart du temps, c'est des contes de Grimm.
D'accord.
Assez accessibles. C'est des contes qui sont disponibles. En livre de poche, voilà, c'est vraiment des choses en bibliothèque. Si on cherche un petit peu, c'est des histoires très accessibles à tous. Non, c'est vraiment de la tradition orale, mais c'est vrai que Grimm, bon, on connaît les grands classiques, mais il y a quand même
oui.
Pas combien de 150 ou 200 histoires. Donc dans le tas, après il y en a une qui est relativement connue, qui est La Mort Marraine. Voilà, mais il y a des histoires qui sont assez accessibles.
Oui, enfin,
c'est facilement. Quoi.
De toute façon, la rareté n'est pas forcément le principal intérêt, puisque les histoires, tu vas les raconter, tu vas pas donner un texte.
Ah non, bah non, l'intérêt, c'est que moi, je raconte, enfin, moi, je donne ma version, partant toujours du principe que j'étais là dans un coin de la pièce et que j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, forcément, par rapport à un autre conteur, ben, l'autre conteur était pas au même endroit de la pièce, il a pas vu les mêmes choses. Donc, forcément, la même structure sortira pas de la même façon.
Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup de ces informations. On ne peut qu'encourager tout le monde à venir voir ce que tu proposeras à cette occasion-là. Est-ce qu'il y a d'autres occasions dont tu voudrais parler ou tu vas te produire à des endroits où on peut te voir?
Pas dans l'immédiat.
Pas dans l'immédiat?
Pour okay. L'instant, c'est des scènes, mais c'est disons en milieu scolaire, donc c'est pas accessible au public.
Oui, d'accord, oui. Ok, on avait parlé lors de la première émission du financement participatif que vous aviez fait pour vos comptes autour de la ville de Chartres. Oui. Ça s'est bien passé finalement?
Ah ben très bien, très très bien. On a eu du monde tous les soirs. Les gens ont bien apprécié la formule soirée compte et auberge espagnole ensuite pour discuter un petit peu. Et donc on a présenté le bilan à la mairie hier. Et ils étaient très contents, ils disent banco pour la prochaine fois. Donc, ma foi, que demande le peuple?
Super. Tu nous as préparé un petit conte à écouter, à peu près une dizaine de minutes, d'après ce que tu disais. Est-ce que tu veux présenter quelque chose ou est-ce qu'on le laisse brut?
Non, c'est juste un conte de Grimm, La Mort Marraine, justement, dont je parlais tout à l'heure, cette histoire-là.
Ok. Voilà. Bah, c'est super, bah, je te remercie beaucoup.
Avec plaisir. C'est l'histoire d'un bûcheron et de sa femme. Ils vivaient avec leurs enfants dans une petite maison. Et ce soir-là, c'était l'hiver. Il y avait un vent dehors, un vent glacial. Et le bûcheron, il était dans la cuisine avec ses enfants. Il attendait. Parce qu'à côté, dans la chambre, sa femme, elle était en train d'accoucher du petit dernier. Il y avait une voisine qui était venue, puis il ne le sentait pas. Ça durait, ça se passait pas bien. Et puis au bout de plusieurs heures, on a fini par entendre un petit, tout petit cri. Le père s'est levé, il s'est approché de la chambre, et la voisine est sortie, puis elle avait dans ses bras un bébé, mais petit, maigre, qui bougeait à peine. Elle l'a tendu au père, pas bien solide hein, celui-là, baptisez-le vite fait. Ce soir, si possible. Le bûcheron a pris son fils dans ses bras. Je trouve un parrain à cette heure-ci, moi. Il s'est approché du feu avec son fils dans ses bras. Le petit était maigre. Il a essayé de le réchauffer. Il est resté. Les autres enfants n'osaient pas approcher. Puis on a entendu quelqu'un qui frappait à la porte. Le père qui gardait son bébé dans les bras a fait signe au grand d'aller ouvrir. Alors le plus grand des enfants s'est levé, puis il a été ouvrir la porte. Et il est revenu vers son père et vers ses frères et sœurs. Ils se sont blottis contre la cheminée et il y a eu un grand vent froid dans toute la cuisine. Une silhouette s'est avancée, une grande silhouette, maigre. C'était une femme. Elle a refermé la porte, elle s'est essuyé les pieds. Elle a posé sa faux contre le mur. Et puis elle est venue s'asseoir sur le banc à la cuisine. Elle a regardé les enfants avec un grand sourire. Et puis elle a vu le père qui avait son petit dans les bras. « Je peux le voir ?» Le bûcheron s'est levé. Il a tendu son fils à la femme qui était assise. « Faut lui trouver un parrain. » La femme a tendu les bras, puis elle a pris le bébé dans ses bras, elle l'a regardé. Elle l'a embrassé, lui a caressé la joue. « Je veux bien, moi, être sa marraine. Je m'occuperai de lui. Il ne manquera de rien, ne vous inquiétez pas. » Elle a embrassé le bébé, puis elle l'a rendu à son père. Puis elle s'est levée, elle a fait un petit signe aux enfants qui se sont à nouveau serrés contre la cheminée. Elle a récupéré sa faux, elle a ouvert la porte, puis elle est partie. Les semaines ont passé. Et le petit dernier, là, ben, il a vécu. Il a grandi. Il est devenu un petit garçon. Un petit garçon costaud, un petit garçon tout vif qui allait travailler avec ses parents dans la forêt, puis ses frères et sœurs. Et quand ils allaient travailler, de temps en temps, ils entendaient quelqu'un qui marchait, pas très loin d'eux. Au bout de quelques années, il a repéré une grande silhouette de femme. Et parfois, cette silhouette de femme lui faisait un petit coucou, mais elle disait rien. Les années ont passé. Personne ne lui avait parlé du soir de sa naissance. Et un jour, il s'est retrouvé seul dans la forêt et la femme s'est approchée. Elle l'a salué, elle lui a expliqué qu'elle était sa marraine. Depuis ce jour, à chaque fois qu'il pouvait, il allait la rejoindre. Et ils se promenaient longtemps tous les deux. Elle était gentille, elle lui donnait des gâteaux, puis elle lui montrait les plantes qui tuent, les plantes qui soignent. Et c'est comme ça que, au fil de plusieurs années, au fil des années, il est devenu médecin. Un très bon médecin. Il est devenu un bon médecin. Quand il entrait dans une maison qui avait un malade, il demandait à être seul dans la chambre, puis il attendait un petit moment. À ce moment-là, sa marraine apparaissait. La plupart du temps, elle allait s'asseoir au pied du lit. Et dans ce cas-là, lui, il s'approchait du malade, il commençait à l'ausculter, il commençait à sortir les instruments de sa sacoche, à prescrire des médicaments. Tout se passait bien. Parfois, quand il entrait dans la chambre, sa marraine apparaissait, puis elle allait s'asseoir à la tête. Dans ce cas-là, il ressortait, il allait dire à la famille, il n'y a plus rien à faire, pas la peine de me payer. Quelques années ont passé. Un jour qu'il était dans un village qui sortait d'une maison, ben il a vu arriver des messagers du roi à cheval. Et les messagers commençaient à annoncer qu'on cherchait des médecins, tous les médecins du royaume, pour aller au chevet de la princesse. Parce que la princesse était malade depuis des jours et des jours. Tous les médecins du palais s'étaient succédés, personne n'avait trouvé ce qu'elle avait. Elle allait mourir. Alors le médecin s'est approché et il a dit « Moi, je veux bien venir, je veux bien essayer. » On l'a ramené au palais. Il est entré dans le palais, il a vu le roi, la reine, qui était effondrée en larmes. Le roi l'a amené jusqu'à la chambre de sa fille. Et le médecin a vu dans le lit une silhouette très pâle. Il s'est approché, la princesse dormait, elle avait des grosses cernes. Elle était belle. Il a demandé à rester seul un petit moment. Les gardes sont restés, mais plus près de la porte. Le roi aussi est resté, il a attendu. Au bout d'un petit moment, le jeune médecin a vu arriver sa marraine. Quand elle l'a vue, elle lui a souri, puis elle est allée s'asseoir à la tête. À la tête du lit. Le médecin n'osait plus bouger. Et le roi au fond de la chambre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que vous pouvez la guérir? Faites quelque chose. Et lui, il était là à regarder sa marraine qui lui souriait, qui caressait les cheveux de la jeune princesse. Et puis d'un coup, il a eu une idée, il a enlevé les draps et la couverture, il a soulevé la princesse, il a retourné, il a mis les têtes aux pieds, les pieds à la tête. Et la marraine s'est retrouvée aux pieds de la malade. Elle s'est levée. Elle l'a regardée droit dans les yeux. Ça, tu vas me payer. Et elle a disparu d'un coup, et dans la chambre, il y a eu un air glacé. Quand la marraine est partie, le médecin a sorti les instruments, il a commencé à ausculter la jeune fille, qui commença à retrouver quelques couleurs. Puis il a appelé des serviteurs pour préparer des tisanes, il a donné tous les ingrédients, il est resté à son chevet nuit et jour, et au bout de quelques jours, elle a commencé à retrouver des couleurs. Et au bout d'une semaine, elle était guérie. Le roi, il était ravi, il ne savait pas quoi dire. « Tu as sauvé ma fille, demande-moi ce que tu veux, je n'ai qu'une parole, je te le donnerai. » Le médecin et la princesse se sont regardés. Ils ont rougi un peu tous les deux, le roi a vite compris. Il a dit « D'accord, tu as sauvé ma fille, je n'ai qu'une parole, tu pourras l'épouser. » Et on a fait un beau mariage, un très beau mariage. Le médecin était là avec son épouse, toute la cour rassemblée. Il y a eu un banquet qui a duré 3 jours, ils ont mangé, ils ont dansé, ils ont bu. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Et en plein milieu du troisième jour de repas, le médecin était tellement fatigué, puis il avait tellement mangé, tellement bu, qu'il s'est assoupi sur la table de mariage. Il s'est réveillé au bout d'un petit moment. Il n'était plus dans le palais. Il était dans une grotte. Une grotte remplie de bougies. Des grandes, des petites, des bougies éteintes. Et au milieu de la grotte, il a vu la silhouette de sa marraine. Elle portait une lampe à la main et elle allumait certaines bougies. Puis elle allait en éteindre d'autres. Quand elle a vu qu'il s'était réveillé, elle s'approchait de lui. Elle dit, mais marraine, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que toutes ces bougies? Elle lui a expliqué. Toutes ces bougies, c'est la vie des hommes. Certaines commencent, d'autres sont déjà finies. C'est comme ça. Ma reine, tu pourrais me montrer la mienne? S'il te plaît, montre-moi ma bougie, s'il te plaît. Ta bougie, elle est là. Et elle lui a désigné une toute petite bougie, presque fondue, en train de s'éteindre. Oh, ma reine, s'il te plaît, tu pourrais pas m'aider pour que je puisse gagner quelques... Je pourrais pas prendre une autre bougie et essayer de la rallonger, non? Ça, je peux pas le faire. Alors lui, il s'est levé, il a pris des bougies autour, il a essayé de rajouter de la cire, de rajouter, mais à force de s'agiter, il a fini par souffler la bougie.